pardonnez pour nous. Jésus crie depuis la croix, Eli, Eli, lema sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Marc 15h34. Des mots forts de faiblesse. Les tout premiers auditeurs les ont mal compris, voici, il appelle Eli. Mais il n'invoquait pas Eli, bien sûr, même si les mots semblent similaires, il invoquait Dieu, dans les mots du début du psaume 22. À partir de la fin du XXe siècle, un autre type d'incompréhension de ce cri de déréliction a commencé à s'emparer de l'imagination des auditeurs. En entendant les mots « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», les modernes semblent avoir commencé à les entendre de manière subliminale comme « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?». C'est une différence subtile et tout à fait compréhensible, l'homme sur la croix est le Fils de Dieu, et en criant vers Dieu, il parle à son Père céleste. Chaque fois que Jésus prie, c'est une conversation entre le Père et le Fils, une conversation dans la Trinité. Ici donc, Jésus qui appelle son Dieu est aussi le Fils qui appelle le Père. Mais dans leur contexte, ces paroles particulières de Jésus sur la croix ne mettent pas l'accent sur la relation Père-Fils. D'autres prières de la croix font « Père, pardonne-leur et Père, reçois mon esprit », par exemple. Mais pour une raison quelconque, ce sont les mots « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui ont attiré l'imagination moderne comme ayant quelque chose de spécial à dire sur la relation Père-Fils. Ce présupposé s'entend dans la manière dont on paraphrase le cri de déréliction, sur la croix, dit-on, le Père tourna le dos au Fils, le Fils a crié au Père, la communion entre le Père et le Fils était en quelque sorte éclipsée. C'est un curieux changement. L'instinct moderne met en avant la relation Père-Fils dans un passage qui ne le fait pas. Les noms Père et Fils ne sont pas à la surface du cri d'abandon. Les paroles de Jésus ici mettent en évidence le nom de Dieu, Eli, Eli. Jésus crie le nom de Dieu humainement depuis un lieu humain. L'une des raisons pour lesquelles il fait cela, je pense, est que ce qui se déroule ici sur la croix est la rencontre entre le divin et l'humain autour du péché. Celui qui a pris la place du pécheur est puni par l'exil, précisément en tant qu'humain, précisément par Dieu. Mettre cela en arrière-plan et recourir plutôt au langage Père-Fils dans le récit paraphrasé de cette histoire, c'est accepter tacitement la proposition selon laquelle ce qui se passe sur la croix révèle plus sur la Trinité, Dieu en lui-même, que sur l'incarnation, Dieu rencontrant l'homme, ou l'expiation, le péché rencontrant la justice. Si je devais deviner les motifs qui poussent les modernes à paraphraser le cri de déréliction en termes trinitaires, à faire tout leur possible pour remplacer le mot Dieu par le langage de Père et Fils précisément ici, je serais prudent en une telle supposition. Je doute qu'il y ait une intention sinistre, généralement. La plupart des sermons et des chants qui vont dans cette direction sont probablement guidés par l'instinct honorable de prendre le cri de Jésus au sérieux, de ne pas reculer devant lui et de ne pas l'adoucir. Et nous devons certainement nous consacrer à une réflexion plus cohérente en termes trinitaires sur tous les aspects du salut. Mais en faisant apparaître ici la relation Père-Fils, nous évoquons accidentellement l'erreur qui a été à juste titre qualifiée de vision de la Trinité brisée. Et cela, l'idée que Dieu s'est désagrégé en morceaux de personnes constituantes, s'est brisé, s'est débrouillé pendant un certain temps avec les deux tiers de la divinité, a divorcé mystiquement, n'a pas été trinité pendant un long week-end perdu, n'a vraiment besoin d'être énoncé clairement que pour la plupart des chrétiens de reconnaître cela comme un non-sens et de le rejeter comme faux. Que devons-nous penser de la mauvaise habitude, répandue seulement au siècle dernier, de recourir au langage Père-Fils pour raconter l'histoire de la mort du Christ sur la croix? Je suppose que la plupart des gens le comprennent de la même manière que nous captons la plupart des façons de parler, simplement par répétition et association. Et même si c'est généralement inoffensif et souvent motivé par de bonnes intentions, je pense que c'est une utilisation qui mérite d'être abandonnée. C'est trompeur, cela amène l'esprit sur des chemins qui mènent hors du cadre biblique et vers nulle part. Ce tic linguistique peut également être porteur de certaines tendances de la théologie académique de la fin du XXe siècle qu'il vaut mieux laisser dans les manuels. Ce que j'ai en tête, c'est un engagement à trouver le sens de la théologie trinitaire au milieu de l'histoire, en particulier dans l'événement historique de la mort du Christ sur la croix. Jürgen Moltmann, d'abord dans le Dieu crucifié et de manière plus programmatique dans la Trinité et le Royaume, est peut-être l'avocat le plus influent identifié avec ce mouvement. Moltmann est un théologien universitaire qui présente explicitement son cas et ses présupposés, Dieu se définit lui-même à la croix dans un événement divin de rupture qui constitue la véritable divinité. Si cela semble métaphysiquement obscur, c'est parce que ça l'est. Il s'inscrit dans une longue lignée intellectuelle, en partie hegelienne, qui considère la lutte historique comme le cœur de ce qui est réellement réel, y compris pour Dieu. Dans la plupart des formes, cet historicisme métaphysique est difficile à concilier avec le trinitarisme nicéen. La théologie du symbole de Nicée reconnaît que le Fils éternel est le vrai Dieu du vrai Dieu et que son histoire d'humiliation n'appartient pas à la définition de Dieu mais à l'œuvre de Dieu pour nous et pour notre salut. Il enseigne et renforce la distinction entre Dieu et la réalité créée. La récompense pour la plupart des chrétiens est la suivante, ce qui se passe sur la croix met en scène la réalité du Dieu saint traitant de l'humanité pécheresse. Lorsque nous regardons la croix et entendons les paroles prononcées à partir d'elle, nous ne disons pas « voilà donc à quoi ressemble la Trinité », mais c'est ainsi que Dieu expie le péché humain. Pouvez-vous comprendre à quel point changer le sujet de la relation père-fils à ce stade serait une mauvaise direction de notre attention ? En quoi est-il trompeur de changer ici de sujet la relation entre le Père et le Fils dans la Trinité ? Bien sûr, l'homme sur la croix est Dieu le Fils incarné, mais il ne négocie pas ici sa filiation. La croix n'est pas principalement une révélation de la Trinité en tant que telle, mais une révélation de la relation divine humaine dans des conditions de péché et d'expiation. Jésus-Christ, portant notre péché, interpelle Dieu sur ses conséquences et sur la manière dont il les supporte. Si vous pouvez entendre cela et faire taire les rumeurs distrayantes sur les trinités brisées et les êtres divins empêtrés dans le devenir historique, alors vous pourrez entendre plus clairement le cri de l'abandon. Jésus n'appelle pas Élie et il ne travaille pas sur sa relation avec le Père. Il travaille à notre salut. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Nous reconnaissons notre propre cri pécheur dans sa voix sans péché, et nous connaissons la réponse, pour nous et notre salut. Double guillemets fermant. Pascal Cusson. Mars 2024.